RCF.
C'est du sport. Notre invité aujourd'hui, Aymeric Jeannot, 1m85, 77 kg, et c'est du basketball. Alors, les auditeurs fidèles de RCF Vendée se souviennent sans doute d'Aymeric Jeannot. Nous l'avions déjà invité dans cette émission, c'était le 28 septembre 2002. Et vous étiez basketteur professionnel à Cholet. Vous faisiez exactement comme aujourd'hui, 1m85 et plus surprenant, 77 kilos. Je suppose quand même que dans ces kilos-là, il y a des kilos de muscles qui ont été remplacés par des kilos de graisse, non ?
Oui, bonjour tout le monde. En effet, c'est plus la même chose.
Bon, alors, je n'avais pas prévu de commencer par ça, mais l'occasion est trop belle. Alors, je résume. Vous êtes un enfant de Saint-Fulgent que tous les Vendéens connaissent. Si j'oubliais de dire une chose, nous réalisons cette émission pour RCF Vendée, depuis RCF Charente-Maritime à La Rochelle, qu'on remercie beaucoup. Voilà. Donc, Aymeric, vous êtes un enfant de Saint-Fulgent. Tout petit, vous vouliez être goal de but. Donc, c'était du football. Mais comment échapper au basket quand papy Bousseau, c'est bien Bousseau, hein, a fondé le club de basket local, que papa fait du basket, que maman aussi fait du basket. Alors, dès l'école primaire, après l'école et les leçons, le soir à la maison, vous vous entraîniez déjà pour devenir basketteur professionnel. Alors, la persévérance du fils n'a pas suffi. Il a fallu la persévérance du père pour que Cholet accepte de vous prendre dans son centre de formation parce que vous n'aviez aucune référence, pas la moindre sélection régionale. Hein, si je dis des bêtises, vous me corrigez. Mais Cholet n'a pas regretté et vous a gardé à la sortie de votre formation. Vous avez été jeune professionnel désargenté et que le jeune professionnel désargenté gare sa mobilette à côté des voitures rutilantes de ses coéquipiers plus âgés. Vous avez été capitaine à Cholet ?
Oui. Oui. Oui, les dernières années, oui.
D'accord. Donc, vous voyez, ils avaient fait une bonne acquisition. Alors, votre carrière professionnelle, on la passe très, très rapidement. 6 saisons à Cholet, 1 au Havre, 2 à Strasbourg, 4 à l'Asvel. L'Asvel, c'est Villeurbanne, où le patron, c'est Tony Parker.
Exactement.
C'est ça. Et puis, pour terminer, 3 années à Strasbourg, avec laquelle vous avez été champion de France en 2013. Et vous aviez été aussi champion de France des clubs avec l'Asvel quelques années plus tôt. J'allais oublier le meilleur, 56 sélections en équipe de France. Et votre poste était meneur de jeu, pour faire bref, et vous avez authentifié ce que je vais dire. Le meneur de jeu, c'est le patron du jeu sur le terrain. Alors, tout ça, c'est fini. La carrière de joueur, c'est derrière. Depuis 2013, vous êtes formé au management sportif, un poste que vous occupez désormais non plus à Strasbourg, mais au club de La Rochelle. Alors, avant de parler du présent, il faut quand même revenir sur l'avenir, plein de bons souvenirs. Vous en avez choisi 3 bons souvenirs. Le premier, vous étiez gamin, un championnat de France minime en 94. Alors, racontez-nous ce qu'il avait de terrible, ce souvenir.
Ouais, de magnifiques souvenirs, c'est vrai. C'est en fin de compte, c'est la première année où j'arrive à Cholet, en 93, c'est en seconde.
Ouais.
Donc, 93, la saison 93-94. Et je découvre le haut niveau des jeunes basketteurs, c'est-à-dire le championnat de France minime à l'époque. Et une bande de copains qui arrivent à gagner un titre dont cette équipe, justement, qui était déjà, que j'ai rejoint, qui existait et qui avait déjà joué des finales, n'avait pas réussi à gagner. Et avec eux, ils étaient encore plus heureux. Et c'était vraiment le souvenir d'une bande de copains qui gagne. Et c'est sûr qu'après, quand on passe dans le monde professionnel, c'est pas tout à fait la même chose.
Ouais.
Mais donc, c'est sûr que ce premier souvenir est chouette.
Vous vous souvenez peut-être pas de tout, mais ces jeunes qui ont gagné le championnat de France minime, ils sont tous devenus professionnels, peut-être?
Non,
pas.
Non, non. Il y en a un qui a fait une carrière, Régis Boissier, de un tout petit peu en première division et beaucoup en deuxième division, et qui est devenu entraîneur derrière.
Oui.
Les autres sont devenus des bons basketteurs, et certains ont arrêté d'ailleurs.
Vous avez gardé des souvenirs de cette année-là, c'était donc 94, ça fait 26 ans, 27 ans.
Oui.
Et des souvenirs encore ?
Ah oui, énormément, beaucoup de souvenirs et beaucoup de coéquipiers qui sont encore des amis proches, donc parce que ils sont de Cholet, parce que on a gardé le contact et oui.
Alors championnat de France minime, c'est bien, mais champion de France tout court avec Strasbourg, c'était en 2005. Ça devait vous marquer plus que le titre avec l'Asvel.
Oui. Alors, chaque titre a ses émotions,
alors,
chaque trophée, voilà.
Mais
2005, c'est le premier première fois où je suis champion de France.
Oui.
Et c'est forcément un rêve d'enfant. Quand on était jeune et qu'on allait voir un match à Cholet, il y avait une finale face à Limoges et on avait réussi à l'âge de 8 ans de toucher le trophée qui était porté par les joueurs de Limoges à l'époque. Donc, c'est de se dire, maintenant, ce trophée, je ne fais pas que le toucher, c'est que je le prends, je le porte c'est moi qui ai gagné ce trophée.
Alors, les joueurs, ils ont une petite réplique du trophée, comment?
Non. Il y a un trophée qu'on remet chaque année.
Oui.
Le club avait refait des petits trophées miniatures, c'était sympa. Mais sinon,
qu'est-ce qui était marquant dans ce titre 2005 là.
Ce qui est le plus marquant.
Oui, pour vous. Hein.
Le plus marquant, c'est que c'est une équipe avec lequel c'est la plus belle saison parce qu'avec n'importe lequel coéquipier que ce soit, on s'entendait à merveille.
Ouais.
Je prends toujours cette comparaison, c'est qu'on se trouve dans
c'est
un.
C'est peut-être celle dont on va parler un peu plus tard.
Oui, on en parlera. Ouais,
parce que
tout
vous avez
fait.
Un grand souvenir, mais ce sera pour plus tard.
Mais c'est sûr que ça c'est marquant parce que l'envie de gagner est partagée par une équipe de copains, en fin de compte, ce qui est rare au niveau.
Et est-ce qu'on garde des liens avec ses copains professionnels comme on le fait avec ses copains d'école ou de basket quand on est minime?
Beaucoup moins, parce que c'est quand même un métier.
Oui.
Les gens partent dans des directions diverses et variées, voire à l'étranger, et on se perd de vue. Dans ma carrière professionnelle, sur les 17 ans, j'ai quelques bons amis, bien sûr. Il y en a un avec qui je suis un peu plus proche, qui est un ancien joueur de l'équipe de 2005, Crawford Palmer, et avec qui on s'entend très bien. Donc, mais sinon, c'est un peu comme quand on change d'entreprise, c'est pareil, on change de collègue et on ne garde pas toujours des liens avec ses collègues. Ouais. Ça reste des collègues avant tout, et voilà.
Alors, dernier grand souvenir, c'est l'équipe de France, donc 56 sélections. Et en équipe de France, vous étiez meneur de jeu, pareil, sans doute.
Oui, voilà. Tout à fait.
Alors, qu'est-ce qu'il avait de... Quelle est cette expérience, l'équipe de France?
Ça reste l'expérience.
On se sent porteur de la France?
Oui. À partir du moment où la première fois on revêtit le maillot de l'équipe de France et qu'on porte avec sur le dos France et qu'il y a la Marseillaise avant match, là, c'est un moment frissonnant, c'est un moment où on est fier.
Ouais.
J'ai toujours eu cette image d'équipe de France qui était un rêve aussi. Ouais. Et que la première fois, on m'appelle, qui était le lendemain du baptême de ma fille aînée, justement, pour remplacer un joueur pour ma première sélection.
Ah, c'est ça, la première sélection.
Exactement. Donc, j'ai le message sur le répondeur le soir même pour que j'arrive le lendemain en stage. Donc, c'était une belle anecdote.
Vous avez emporté des dragées, non?
J'aurais dû. Ça m'a apporté, en tout cas, ça m'a réussi. Et oui, l'équipe de France, c'est que c'est la compétition, ce sont les meilleures compétitions en Europe ou au monde.
Ouais.
C'est aussi le standing de la médiatisation, des coéquipiers, du confort. Malgré tout qu'on touche.
Ouais.
Donc, ça reste un partage.
Et le championnat du monde auquel vous avez participé, ça vous a marqué d'une façon ou d'une autre?
Oui, c'est 2006. Championnat du monde en 2006, c'est au Japon. Et la veille de la compétition, Tony Parker, qui est le joueur, le premier meneur de cette équipe, se blesse.
Ouais.
Donc, je deviens propulsé au devant de la scène en étant le premier meneur de cette équipe. Et on fait cinquième au championnat du monde. Ce qui était un bon résultat.
Ouais.
On aurait peut-être fait mieux avec Tony ou sans Tony, peut-être pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était un très beau souvenir qui m'a propulsé.
Tony, ça vaut combien d'Emeric Janot?
Ah, Tony, ça vaut beaucoup d'Emeric Janot, donc.
Mais vous vous sentez, d'abord des professionnels du même type ou c'est, là aussi, vous pouvez le regarder comme quand vous regardiez les champions quand vous étiez tout petit? C'est quoi le...
Non, il y a une proximité qui est parce qu'on est coéquipier avant tout.
Ouais.
Et qu'on est dans la même équipe longtemps et qu'on s'engueule et qu'on s'encourage et qu'on se supporte de la même façon. Après, on vit avec c'est des expériences parce qu'on côtoie quelqu'un qui vit dans un milieu de people déjà à l'époque parce qu'il avait une femme qui était encore plus reconnue que lui. Donc c'était c'est ce milieu-là qu'on découvre un petit peu, qu'on côtoie. Dès qu'on est sur la place publique, sur la place privée, Tony reste un homme très simple, très abordable, très gentil et un vrai coéquipier.
Je ris en vous regardant parce que on se connaissait déjà, on s'était déjà vu. Mais ce matin, j'ai vu quelques images de vous, des images de basket. Vous avez une tête et des yeux exorbités, une tête de mort de faim, quoi, en plein match. Là, c'est le combattant, quoi.
Ça ne vous
manque pas, ça, quand même, l'adrénaline le...
Alors, on aimerait être, bien sûr, que j'aurais aimé être basketteur toute ma vie, évidemment, parce que les soirs de match où c'est exceptionnel, qu'on communique un public, qu'on gagne des titres, même qu'on perde, parce que la défaite sont des moments très forts aussi. Ça peut manquer, mais quand on passe à autre chose, on se projette sur un autre projet.
On va prendre un petit peu de respiration, vous avez choisi de Goldman, on ira.
On partira de nuit l'heure où l'on doute que demain revienne encore. Loin des villes soumises, on suivra l'autoroute, ensuite on part.
sera nos clés, nos cartes et nos codes, prison pour nous retenir. Tous ces gens qu'on voit vivre comme s'ils ignorent qu'un jour il faudra mourir. Et qui se font surprendre au soir aux belles. On ira, on partira, toi et moi, où je sais pas. Mais que les routes qui sont belles, et peu importe où elles nous mènent aux belles. On ira, on suivra les étoiles et les chercheurs d'or. Si on en trouve, on cherchera encore. N'échappe à rien, pas même à ses fuites. Quand on se pose, on est mort. Oh, j'ai tant obéi, si peu choisi, petite. Et le temps perdu me dévore. On prendra les froids, les brûlures en face. On interdira les tièdeurs, les fumées, les alcools.
Alors, on a peut-être eu de la peine à entendre des paroles sur cette chanson, j'ai remarqué. Hein, je vous donne une ou deux citations. On partira de nuit, l'heure où l'on doute que demain revienne encore. On laissera nos clés. Enfin, c'est l'idée de partir. Et il y a quelques phrases aussi qui semblent dire ben, que partir, parfois, c'est pas toujours une réussite. Ça vous parle, cette chanson, si vous l'avez choisie, sans doute.
Alors, à plusieurs sens. Un, par rapport au fait que les paroles qui nous demandent à toujours avancer avec ses doutes et aussi ses certitudes. Et puis, et on arrive justement à se projeter et à faire de belles choses. Le deuxième, le clin d'œil, c'est que c'est une chanson que j'avais choisie pour le jour de notre mariage avec ma femme, où j'avais sorti une guitare, j'avais appris à jouer trois accords, juste pour faire le beau qui savait faire une chanson.
Et personne n'est sorti de l'église à ce
moment-là. Non, c'était pas dans l'église, rassurez-vous, c'était quand même après.
Ah, c'était après, bon.
Mais depuis, j'ai jamais retouché à la guitare, mais donc elle a un petit clin d'œil en plus parce que c'est notre
histoire. On aura peut-être l'occasion de reparler de madame tout à l'heure, je pense. Alors, 2013, vous arrêtez votre carrière, mais vous arrêtez point le basket. Donc, vous vous orientez vers le métier de manager sportif, et vous allez faire une formation que font tous les grands sportifs qui se recyclent dans ce domaine. Alors, je vous laisse énoncer la formation. Alors c'est à Limoges.
C'est à Limoges, ça fait partie du Centre de droit et de l'économie du sport. Et c'est un master de manager général de club sportif professionnel.
D'accord.
Où on se retrouve avec des anciens sportifs de haut niveau.
Même Zidane a fait ça.
Zidane a fait la promo avant moi, en effet.
Oui, d'accord. Mais il ne sait peut-être pas que vous l'avez fait.
Je pense pas. Tout le monde sait que lui l'a fait, mais.
Vous devriez lui envoyer un courrier, oui. D'accord. Alors, j'avais une question qui m'est venue dans la voiture tout à l'heure. Il est question de droit, il est question de. Redites-moi, droit et.
Le droit et de l'économie du sport.
Économie, bon, d'accord. Est-ce qu'il est question de valeur, d'éthique, de choses comme ça?
Et énormément. Enfin, on parle surtout de management. Et pour manager, savoir comment aussi la porter. Donc, on est quand même sur ces, le choix des hommes, le côtoyer les hommes, savoir parler, savoir écouter, savoir partager un projet.
Ouais.
Et alors, c'est indirectement induit dans la formation, mais ça en fait partie forcément dans du management et lorsqu'on est pilote, quand on pilote un projet. C'est surtout les hommes qui le font.
Donc, celui qui parle, si vous avez pris la radio en cours de route, c'est Aymeric Jeannot, ancien basketteur, mais qui actuellement est le manager de l'équipe de basket, on précisera, du club de La Rochelle. Hein. On reviendra à tout ça. Donc vous faites une formation, on vient de le dire, et ça fait quoi de retourner à l'école ? Surtout quand le bac, vous l'avez passé, mais vous ne l'avez pas eu, c'est ça ?
Exactement. C'est le regret que j'ai et que mes parents doivent toujours avoir pour moi. Mais,
parce que j'imagine qu'ils vous avaient quand même prévenu.
Ah oui, oui. Et puis c'était un suivi quotidien à la maison. Donc,
alors, quand on reprend l'école, à quoi ? 42 40 ans, 39
Quel âge ? 35.
35
quand j'arrête la carrière.
Ah oui, ça fait déjà 5 ans.
Ouais, 30, voilà.
Alors, ça fait quoi ?
Cette formation, elle est quand même adaptée aussi pour pas qu'on soit derrière un bureau après 20 ans de carrière et qu'on soit un peu perdu.
On vous attache pas aux chaises.
Non, quand même pas. Mais par contre, c'est intéressant de se remettre dans des réflexions. Alors, je m'étais pas écarté de ça pendant la carrière non plus, toujours intéressé à autre chose. Mais c'est reformaliser des choses, présenter des dossiers et faire des oraux. En effet, ça date et donc il faut se réadapter un peu. Mais quand ça s'accompagne d'un projet à côté, où moi j'étais justement sur ce bascule de reconversion dans le club où j'avais fini ma carrière,
à Strasbourg.
Tout de suite on y prend un sens beaucoup plus, enfin on y donne un sens plus important, l'investissement est aussi, en fait, quand t'es directement lié à ce qu'on fait.
Vous étiez tous des anciens sportifs ?
Oui, essentiellement dans le foot comme dans le rugby.
Et alors, est-ce que recommencer à cet âge-là, c'est plus dur ou c'est plus facile que quand on est gamin à 18 ans ? Les gens qui m'entendent ne vont pas être contents.
c'est plus évident, bien évidemment, parce qu'on a l'expérience de vie qui fait qu'on sait pourquoi on veut apprendre des choses, on sait pourquoi on s'enrichit, on sait pourquoi le sens, on le trouve, il est direct dans ce que l'on fait au quotidien. Donc c'est beaucoup plus facile et on s'intéresse aux choses et on arrive à les approfondir parce que ça, c'est notre expérience de vie. C'est plus simple que lorsqu'on est au bac.
Ça percute, on voit
à quoi
ça sert.
C'est pas toujours évident de se projeter quand on est jeune, s'il n'y a pas un sens à ce qu'on fait.
Moi, je me souviens d'un prof d'économie des médias qui n'était pas très brillant, mais qui connaissait beaucoup de choses. Et on a eu pitié de lui. On était beaucoup plutôt d'anciens, justement. Et on s'est mis à poser des questions. Et le cours est devenu tout à fait intéressant. Alors que si on s'était dit, bon...
On écoute et c'est tout.
On se repose, on a autre chose à faire. Bon, alors, vous avez commencé à exercer à Strasbourg, où vous étiez écoutier. Le terme exact, c'était directeur du marketing.
J'étais manager général du développement, voilà, exactement.
Et donc, vous atterrissez à La Rochelle. Est-ce que c'est parce que vous préférez la mer à la montagne, l'Atlantique aux Vosges ?
Non, c'est un nouveau projet qui s'est présenté à moi et qui m'emballait au niveau du projet humain aussi. Et dans les perspectives des ambitions que le club du Stade Rochelais présenté pour le basket.
Ouais. Alors, le Stade Rochelais, c'est un grand club qui a multidisciplines, comme le PSG d'ailleurs. Mm-hmm. Enfin, concrètement, à La Rochelle, c'est le rugby, on en parle, et Rupella, dont on parlait autrefois. Donc, vous êtes le... Oui, alors, le titre exact concernant le basket.
Directeur général, mais c'est plus le pilote du projet du Stade basket. Rochelais basket. Et donc, ça, c'est... maintenant, le club appartient basket, au Stade Rochelais rugby. Oui. Voilà. Et donc, c'est piloter ce projet basket pour faire monter les résultats sportifs dans les divisions supérieures.
Et donc là, vous avez responsabilité aussi sur le jeu, sur le terrain.
Voilà. Ce que je n'avais pas à Strasbourg, je le retrouve ici sur aussi le projet sportif. Et donc c'est piloter le projet sportif, le développement du club à travers toutes les fonctions qui existent déjà parce qu'on mutualise les choses avec le rugby.
D'accord. Alors, ce qui peut être étonnant quand on vous a suivi un peu, c'est de vous retrouver à faire du management alors que vous aviez passé tous vos diplômes pour être entraîneur.
C'était ma passion de continuer à être sur le terrain. Ça l'est aujourd'hui toujours, bien sûr. Mais j'ai passé mes diplômes d'entraîneur parce que lorsqu'on est meneur de jeu, on a quand même plus on dirige plus le jeu, donc on a cette envie de devenir entraîneur aussi. Mais oui, j'avais réellement envie. Et le chemin avançant, la famille aussi, parce que j'ai trois enfants et donc je cherchais aussi un peu de stabilité, parce que lorsqu'on rentre dans le monde de l'entraîneur, faut être prêt à bouger beaucoup. Et les enfants grandissant, je voulais aussi un peu de stabilité. Et aussi sur cette fin de carrière, c'était de m'ouvrir à plus de choses que de rester simplement dans cette petite bulle de sportifs de haut niveau, encore plus dans le basket. Et donc de m'ouvrir à plus de responsabilités qui élargissaient les rencontres, l'enrichissement personnel aussi. Ça m'intéressait de plus en plus. Et le club de Strasbourg m'a offert cette possibilité en sortie de carrière.
On a fait allusion à votre épouse tout à l'heure. On vient de faire allusion aux enfants. Ils vous ont reproché quelquefois d'être trop absent parce que votre métier, le dimanche, vous n'étiez pas là, vous étiez ailleurs. Les entraînements, tout ça.
Ils me l'ont reproché, et bien sûr que c'était une période où j'ai pas porté assez d'attention. Le jour où j'ai arrêté de jouer au basket, en fin de compte, j'ai été plus pris que quand j'étais joueur. Parce que je me suis investi à fond dans mon nouveau métier et dans ces nouvelles activités. Donc j'ai beaucoup donné pour réussir de toute façon, parce que je ne conçois pas les choses autrement. Mais donc j'ai porté beaucoup d'investissements avec la formation en parallèle aussi. l'installation sur Strasbourg où voilà, on avait fait construire une maison. Donc c'était beaucoup de choses. Et cette période-là de 3-4 années où on me disait on ne voit plus papa quoi. Et les enfants m'ont dit ça, donc c'était un peu difficile.
Maintenant ça va mieux, ils disent plus on ne voit plus papa.
Ils sont plus grands aussi, ils se sont habitués un petit peu.
D'accord.
Mais j'y prête de l'attention plus que cette période qui était le
voilà, chauffeur. On va prendre une pause musicale, vous écoutez bien, vous allez peut-être être surpris. Je vous préviens quand même, il s'agit du morceau introductif de la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Je m'excuse parce que ça sera vraiment un très très court extrait. On écoute.
C'est du sport sur RCF Vendée avec Claude Arignon.
Émeric Jeannot, notre invité, qui est le manager sportif du basket Truppella à La Rochelle, après avoir été joueur de basket. Dites-moi, vous aimez, je crois, la musique classique. Pourquoi vous avez choisi ce morceau ?
J'ai découvert la musique classique il y a une bonne dizaine d'années, en gros. Je sais que papa aime beaucoup ça, oui. Mais on l'écoutait dans la voiture, c'est pas forcément la musique que j'adorais quand j'étais petit, mais en fin de compte, peut-être que ça m'a transmis un petit peu ça, et en arrivant à Strasbourg en 2010, j'ai un de mes meilleurs amis sur Strasbourg qui me l'a fait découvrir réellement.
Oui.
Et ce morceau de la Passion de Saint-Matthieu de Bach, c'est, je le trouve merveilleux parce que même les gens qui ne sont pas croyants,
oui.
On se dit waouh, cette musique, elle nous porte quelque ouais. part. Ou est-ce que Bach a voulu le faire réellement pour ça, je ne sais pas, mais en tout cas, elle porte les gens, donc elle mérite d'être écoutée.
J'ai entendu il n'y a pas très
est...
longtemps, peut-être quelques mois quand même, une cantatrice ou une femme chef d'orchestre, je ne sais pas, peut-être bien les deux d'ailleurs, puisqu'on a plus en plus de solistes qui sont des directeurs d'orchestre, et on l'interrogeait sur la foi, et dit ben, je ne crois pas vraiment. Et elle a terminé par cette phrase, mais quand j'écoute Bach, je me dis que c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose. C'était assez vague, mais
c'est un peu ce que vous dites.
Voilà. Alors, je crois que dans le milieu basket, vous êtes connu comme un croyant. Vous avez, à une époque, je crois, participé à une équipe de préparation à la confirmation d'adultes. Mm-hmm. Mm-hmm. Pas mal de choses comme ça. Et puis, au cours de. En 2005, à Strasbourg. Vous aviez une équipe de basket tout à fait particulière. Vous étiez le seul Français né en France. Alors les autres, quelle nationalité ? On ne va pas en dire 10.
Le championnat autorisait, le règlement autorisait 4 Français et 6 étrangers. Hein. Et en fin de compte, les 3 autres Français, c'était un Américain naturalisé. Il y avait un Franco-Israélien et un Franco-Béninois.
Ouais.
Et ensuite, c'était des étrangers, la plupart américains.
Ouais.
Il y avait un Croate
et alors,
aussi.
Oui, un Croate, voilà.
Exactement.
Et puis, alors donc, des confessions religieuses assez différentes. Donc, il y avait au moins catholiques ou plusieurs.
Oui, catholiques, il y en avait plusieurs.
Oui.
Protestants.
Oui.
Il y avait musulmans et orthodoxes.
Oui.
Et juifs.
Oui.
Donc, on se retrouvait...
Le croate était orthodoxe.
Orthodoxe,
ouais, c'est
exactement.
Ça.
Et on se retrouvait vraiment d'une façon très hétéroclite au niveau de...
Oui,
de,
et
de
c'était une équipe qui fonctionnait très bien, où vous étiez très proches les uns des autres. Et puis, je crois que ça a commencé un jour où quelqu'un a proposé de bénir un repas. C'est
un moment très fort dans l'équipe. C'est qu'on est juste avant les phases finales pour être champion de France, justement, en 2005.
Ouais.
Et dans cette préparation des phases finales, on se retrouve à l'hôtel et on discute de religion à plusieurs.
Ouais.
Et la discussion prend part au niveau de toute la table.
Ouais.
Et il y a un des coéquipiers qui dit, mais tiens, c'était Afik Nissim, justement, le franco-israélien, qui dit, ouais. Tiens, ça serait pas mal que tu fasses la bénédicité, comme les juifs la font. Et, ouais. Et donc, il a pu la dire en hébreu, sans qu'on n'y comprenne rien.
Mais... c'était de l'hébreu, c'est le cas.
Exactement. Et donc, c'était très riche. Ouais. Et on a pu tous être se souder autour justement, de
croyances
de chacun.
Et alors, après, vous avez recommencé ça d'autres fois, et vous avez même prié aussi après des matchs.
Oui. Dans le vestiaire, sur des matchs importants après des victoires, on était contents et forcément ça facilitait le partage. Et même lorsqu'on est champion de France à Bercy, au milieu du terrain, une fois qu'on a notre trophée, tout ça, on a pris un petit moment ensemble. Et là, pareil,
et donc, sur le stade lui-même,
dans
sur
le stade,
terrain.
Avec le public qui reste dehors, alors c'était très court, mais on s'est regroupés tous ensemble et on a eu ces pensées, chacun dans ce qu'il avait, ce qu'il souhaitait, mais en tout cas de façon très forte. Et c'est là qu'on voit que cette équipe, elle avait une dimension et elle reste pour moi aujourd'hui la plus belle équipe avec laquelle j'ai joué.
Donc, alors, si j'ai bien compris, vous faisiez comme le pape ou les papes, parce que Jean-Paul II l'a fait, je pense que les autres l'ont fait, c'est-à-dire prier avec des gens d'autres religions, mais chacun a prié dans sa religion. Et vous, là, vous avez quand même une habitude de la prière. Tiens, à ce propos, j'ai une question. Vous m'aviez dit, donc, dans la précédente interview de 28 septembre 2012, peut-être, je vous avais dit, mais est-ce que vous priez pour gagner le match? Et vous m'avez dit, c'est pas Dieu qui marque les paniers, c'est moi. On revient à cette prière. À quoi vous pensiez quand, donc, quelqu'un d'autre... disait une prière
ça dépasse
de l'islam.
Ça dépassait simplement ma propre foi. C'est-à-dire qu'il y a d'autres croyants qui prient d'autres dieux, d'autres façons de faire. Mais qu'on est l'un à côté de l'autre, en fin de compte. C'est surtout ça qui... Il n'y a plus de différence à ce moment-là d'homme, de couleur ou de quoi que ce soit.
Mais dans votre tête, c'était quoi votre prière à vous? C'était plutôt le merci, la demande?
Oui, c'était plus sur le merci. Je suis beaucoup plus sur le merci que de partager un moment comme celui-ci qui est tellement riche pour moi. Cette chance de pouvoir, grâce aux différentes croyances et à la mienne, de pouvoir vivre ce moment avec aussi autant d'intensité, en fin de compte. Ouais. Parce que je trouve ça très riche de prier justement avec d'autres gens qui prient différemment de nous, mais qui ont malgré tout cet amour des autres, quoi.
Alors, une question qui est peut-être une question de directeur de marketing plus que de spiritualité. Ça vous a fait gagner des matchs, ce type de relation tout à fait particulière que vous aviez?
C'est certainement, oui. La résultante d'être champion vient de cette cohésion de groupe. Ouais. Évidemment que gagner avec des gens qui sont prêts à tout donner pour l'autre, c'est comme ça qu'on arrive à gagner. C'est jamais sur des individualités. Alors, ça arrive, bien sûr, ça arrive.
Alors, on passe rapidement parce qu'on va boucler bientôt l'émission. Donc, vous êtes catholique, vous avez été un animateur des pèlerinages, parce que moi, j'ai entendu un jeune père de famille dire « Je me rappelle d'Émeric Jeannot ». Il s'en rappelait d'autant plus que dans le quart de ce pèlerinage, c'est là qu'il avait trouvé sa femme. Donc, vous voyez. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé à faire le lien entre ces événements de votre vie qui étaient le sport et moi je pense au petit jeune qui est pas un professionnel mais qui fait 15 heures d'entraînement par semaine. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont aidé à faire le lien entre je dirais votre vie de chrétien, le rapport aux autres, la prière et votre vie de sportif?
Il est certain qu'on a avec ma femme rencontré un peu par hasard une sortie de messe justement en disant on aimerait se préparer pour nos filles en saille à l'époque, un prêtre qui était très à l'écoute et qui nous a partagé justement, qui nous a appris à vivre la foi en couple et à la confirmation d'adultes.
Votre femme a été confirmée
Exactement, même au catéchuménat pour les adultes aussi, donc on a donc je pense que lui a été un bon levier et aussi mes parents bien évidemment et un dîner avec mes grands-parents dont mon papy qui était diacre, papy Bousseau qui a créé le club justement, et avec papy mamie, c'était un repas où on y était avec ma femme Violaine et on se rappelle de ce repas il nous a marqué par comment vivre la vie de couple tout au long de sa vie et donc bon, c'est bien sûr que c'est multiples rencontres qui nous permettent tout ça. Je ne peux pas en dire qu'il n'y en a qu'une.
Bon, écoutez, Émeric, merci. Le portrait chinois, très très vite, si vous étiez une plante.
Alors c'est là que j'ai calé dans cette réflexion qu'on avait anticipée, c'est que la main verte, moi je ne l'ai pas du tout. La dernière plante que j'ai eue, je l'ai fait couler. Donc là-dessus, je suis difficile.
On vous pardonne. Un animal.
J'aime bien le cheval par son élégance et par ce qu'il apporte aux hommes.
Vous savez que c'est un animal peureux ?
Alors ça peut me ressembler.
Bon, vous y réfléchirez. Et si vous étiez un édifice ?
Un édifice, je vous invite à découvrir la chapelle de Ronchamp. Qui est juste magnifique parce que j'aime aussi l'architecture qui a été faite par Le Corbusier.
Je l'ai vu déjà.
Et donc, je
crois bien que quand je l'ai vu, c'était en 78.
D'accord.
Vous n'étiez pas né.
C'est mon année de naissance.
Voilà, c'était du sport. C'était Aymeric Jeannot. On a parlé de basket et de beaucoup d'autres choses sur RCF Vendée avec la collaboration de RCF Charente qui nous a accueillis dans ses locaux.
Merci.